Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes vendredi, c'est froid ce matin, mais disons que la période la plus froide va surtout commencer en après-midi, se poursuivre en soirée durant la nuit. Donc en résumé, pour Montréal, on a officiellement moins 20 ce matin avec un ciel dégagé. Marquez que le soleil sera très présent. Généralement ensoleillé, mais de la poudrerie par endroit, des vents aussi de 30 à 50 km heure, et les températures vont descendre en après-midi pour atteindre moins 26. Pour ceux et celles qui calculent le refroidissement éolien, c'est moins 30 pour la matinée et moins 40 pour l'après-midi. En soirée, quelques nuages venteux avec un minimum de moins 28 pour la nuit et le refroidissement éolien autour de moins 43. Samedi, on prévoit du soleil avec une période aussi un peu plus importante en termes de vent, surtout le matin. En après-midi, un peu plus confortable, mais ça demeure quand même très froid. Là, on parle de moins 17 degrés, moins 17 pour la nuit. Et tenez-vous bien, c'est ça qui est absolument étonnant, on prévoit des averses ou de neige ou encore de pluie pour dimanche. Si c'est de la neige, c'est autour de 5 cm et là, on est au-dessus de zéro, c'est-à-dire 2 degrés. Ce qui fait que dans la nuit, on sera à moins 17, puis le mercure va grimper rapidement pour la journée de dimanche. Pour ce qui est du froid, fait le tour tantôt de plusieurs villes du Québec, et on a des températures très élevées. On peut penser, bien sûr, à l'Abitibi. On peut penser à la région du Saguenay, Côte-Nord également, Chibougamau. Alors, donc, température. Ce qui fait en sorte que pour vendredi et samedi, Hydro-Québec prévoit que la demande d'électricité va dépasser la pointe de consommation historique qui était d'environ 40 500 mégawatts. Faut pas remonter très loin, là, c'est en janvier 2022. Et les températures vont mettre à l'épreuve la capacité des bâtiments à conserver leur chaleur, ce qui, de facto, augmente la demande pour le chauffage. Alors, on demande aux gens de réduire de 1 ou 2 degrés Celsius, notamment pour ce qui est des pièces qui sont pas occupées dans la maison, d'essayer de limiter l'utilisation d'eau chaude, c'est encore plus vrai durant les périodes de pointe, et également de réduire l'utilisation de gros appareils électroménagers. On pense à la sécheuse et la laveuse, et on suggère aux gens de dormir samedi matin. Il y a toujours une touche d'humour avec Hydro-Québec. Et on ira sur le terrain tantôt, puis aussi on ira voir un peu comment ça s'est passé dans les différents refuges de Montréal au cours de cette première nuit de froid. Et d'ailleurs, ce matin, aux États-Unis, dans le nord-est américain, si vous voulez, on a aussi des températures extrêmement froides, du vent, disons, qui dérange, de l'air arctique. Et on regardait les prévisions qui sont faites. Même New York, où il n'y a pratiquement pas eu de neige, là, quelques flocons depuis le début de l'hiver, dans plusieurs endroits, on avertit les gens que les vents seront extrêmement froids et de se protéger, il y a un potentiel évidemment d'engelure. Deuxième sujet ce matin, c'est l'histoire d'enquête de Radio-Canada concernant ce milliardaire montréalais, Robert Miller, qui a créé Future Électronique, une entreprise de composantes électroniques. L'enquête menée par Radio-Canada et CBC, là, de Fifth Estate, a permis d'entendre des témoignages de jeunes filles qui ont été payées par Miller, qui ont été recrutées par des entremetteurs, souvent c'était aussi des jeunes filles, pour des activités sexuelles dans une maison qui n'est pas la sienne, à Westmount, et dans des hôtels comme le Reine-Élisabeth et l'Intercontinental. Ces jeunes filles ont comme caractéristique, d'après cette enquête, d'être très, très jeune, autour de 14 ans à l'époque. On parle évidemment des années 90, début 2000. Et donc, en échange d'argent, beaucoup d'argent, ces jeunes filles se sont prostituées. Et Miller avait, d'après toujours les témoignages entendus, un certain roulement. Son avocat a tout nié. Il a dit qu'il souffrait de Parkinson depuis des années et qu'il avait des problèmes érectiles, donc on peut pas lui reprocher ce type de comportement. Il dit que c'est impossible. Et que toutes ces allégations ont été enquêtées et la police n'a pas donné suite. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai écouté le reportage et il y a deux ou trois éléments qui sont extrêmement troublants, et qui visent le service de police de la ville de Montréal et les enquêteurs dans le dossier. Premièrement, comment se fait-il qu'il y a eu interrogatoire des victimes dans un mode qui était pas loin, d'après ce qu'elles ont dit, de l'intimidation? En disant, ben, t'as recruté des filles, même si t'es mineur, t'es dans le trouble, puis tout ça devant l'avocat de Miller, qui n'est pas identifié. Je sais pas c'est qui, mais tu dis, comment ça se fait que l'avocat du suspect est présent quand les filles se font interroger? Quelque chose qui marche pas. La défense dit également, M. Miller a toujours eu des relations sexuelles avec des gens qui avaient l'âge du consentement. Là, il faudrait s'entendre, c'est quoi l'âge du consentement? Et ce que j'ai compris, c'est que quand il y a des sommes d'argent en cause, puis mineurs, ben, il n'y en a pas de notion de consentement. Écoutez, l'impression que ça donne, là, c'est que pour toutes sortes de raisons, puis hier, j'ai parlé à ben des gens, puis il y a comme une conclusion. C'est comme si la police avait décidé de fermer le dossier bien vite. Ce matin, dans De Gazette, on raconte qu'à l'époque, il y avait eu visite dans les bureaux de Future Électronique, dans l'ouest de l'île. Puis on n'a jamais su exactement pourquoi. Il y a des gens qui sont identifiés dans le reportage comme vraiment ceux qui recrutaient. Vous aviez celle qui était responsable de la sécurité à l'hôtel Intercontinental qui nous parle d'un va-et-vient régulier d'un gars qui loue deux suites, une pour lui, une pour un ami, puis il habite à moins d'un kilomètre de l'hôtel. Puis sa femme a embauché un détective privé pour le suivre parce qu'elle le soupçonnait d'avoir des activités avec des très, très jeunes filles. Alors, là, j'ai vu la réaction du monde politique hier, là, le ministre Bonnardel, puis les partis d'opposition, tout le monde est scandalisé. OK, mais une fois qu'on a dit ça, c'est quoi la suite? Est-ce que ça mérite de rouvrir l'enquête? Il n'y a pas de prescription. Pourquoi il n'y a pas eu de suite? Et je pense que les victimes présumées dans cette affaire-là ont au moins le droit de rencontrer des enquêteurs qui peut-être ne sont pas contaminés, disons, par un environnement. Puis on a vu plein d'anciens policiers du SPVM qui ont été embauchés par M. Miller. Puis, tu sais, ces gens-là, est-ce qu'ils se sont connus chez les Shriners en plus? Entendu ça, moi, hier. Fait que ce que je veux vous dire, je pense que c'est important que ça tombe pas entre deux chaises. Là, ça passe à Radio-Canada le jeudi soir. C'est extrêmement sérieux. Et beaucoup de gens ont l'impression que parce qu'il est très riche, il a pu se négocier une forme d'immunité. Alors, vous pouvez lire la suite encore ce matin, notamment dans The Gazette. On va jeter un coup d'œil cette fois sur le dossier de Tony Accurso. C'est Daniel Renault dans la presse qui en sait un peu plus. Et ce sont des informations qui circulent déjà. Il y a Tony Accurso dans un coin, puis il y a sa fille, puis son gendre dans l'autre, puis son fils. On a souvent pensé que les deux histoires étaient intimement liées. Et la police pense que c'est pas tout à fait ça. Et que M. Accurso a reçu des appels téléphoniques qui ont viré en extorsion, tentative d'extorsion, venant d'un individu qui est condamné à la prison à vie puis qui est à Donnacona, qui appelait Tony Accurso, qui le menaçait, « Si tu payes pas, on va poser des gestes. » Ça, c'est une chose. Et ce même individu serait à l'origine aussi de menaces d'incendie criminel, on en a beaucoup parlé ici avec Bénédicte, qui ont touché des cafés libanais de Montréal et de Laval, des gens qui se faisaient demander de l'argent, de la protection. Tout simplement. Ça, c'est une affaire. Dans le cas de la fille de M. Accurso, on se rappelle le dernier événement quand ses bureaux ont été ciblés aussi par un incendie criminel, ce serait un autre scénario. Alors, est-ce que c'est une affaire de dette, de conflit au sein de la famille? Mystérieux. Mais on pense vraiment que dans le cas de Tony Accurso, c'est quelqu'un qui se dit « il est riche, il est plein ». puis il va nous payer parce qu'on va le menacer. Et on sait que M. Accurso a porté plainte à la Sûreté du Québec. Maintenant, le vaccin, Medicago, c'est terminé l'aventure. Les gens sont un peu surpris parce que le groupe Mitsubishi, qui est responsable, qui chapeaute le laboratoire qui est installé à Québec, a décidé de cesser la production. C'est la fin de la commercialisation parce que le marché a changé. Medicago, ça a pris du temps par rapport à d'autres vaccins pour être reconnu par Santé Canada. Les démarches plus longues. Le fédéral avait mis beaucoup d'argent dans ce projet-là. Puis c'était à l'époque la course au vaccin, puis l'importance pour le Canada et le Québec d'avoir, disons, des plans. Même le fédéral avait décidé d'acheter beaucoup de vaccins. Il avait promis d'acheter, je pense, à 76 millions ou 75 millions de doses à l'époque. Tout ça pour vous dire qu'ils se rendent bien compte que là, la vaccination tombe. Puis on l'a vu avec Dr Boileau hier, qui sera aussi notre invité ce matin. Mais que on a décidé pour les prochains mois, donc pour cet hiver puis le printemps, de dire aux gens le vaccin est recommandé pour les personnes qui n'ont pas eu la COVID. Et il y a un pourcentage élevé de Québécois qui ont eu COVID, vaccin, donc les deux. Puis on le recommande aussi, évidemment, aux personnes immunodéprimées ou les gens qui sont en dialyse, qu'elles aient eu la COVID ou non. Alors, pour les gens qui sont vaccinés adéquatement et en bonne santé, la dose de rappel additionnelle n'est pas nécessaire. Alors, c'est important de prendre note. Alors, ça peut expliquer aussi, pas que ça, là, mais disons que Medicago est arrivé un peu tard dans la chaîne de la vaccination, puis on se retrouve avec, malheureusement, des pertes d'emplois pour ce qui est de ce laboratoire, cette entreprise qui est établie à Québec. Et pour les gens qui s'intéressent aux fraudes dans le domaine des vaccins, il y a un bon papier ce matin de Vincent Larouche concernant une femme qui a été embauchée dans le cadre du programme Je contribue. Et elle a décidé, parce qu'elle était témoin, elle était dans des centres de vaccination. Puis là, elle se disait, ça se peut pas qu'une seule personne ait vacciné 1500 personnes. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Elle s'est rendue compte de ça. Elle s'appelle Victoria Villalba et elle a travaillé non-stop, des heures non payées. Elle a commencé donc au Stade olympique. Et puis finalement, elle s'est rendue compte que, par exemple, les gens avaient tous le même mot de passe pour avoir accès à l'ordinateur. C'était « bonjour 01 ». Ils n'ont pas cherché longtemps. Puis la plupart des gens gardaient le même mot de passe. Des doses qui étaient supposément administrées dans une région par un professionnel de la santé qui pourtant était complètement ailleurs, là, à des centaines de kilomètres. Bref, il y a eu de la magouille. Et on pense qu'elle a réussi à elle seule à découvrir 10 000 faux passeports, des gens qui voulaient avoir des faux documents pour aller au restaurant puis se livrer à leurs activités. Alors, c'est à dire ce matin, c'est quand même assez impressionnant. Bon, le chemin Roxham, on a vu la danse un peu difficile hier du gouvernement. La ministre Fréchette qui a été, disons, assez contredite par le premier ministre Legault. Madame Fréchette avait dit au point de départ on peut pas comme ça fermer le chemin Roxham, puis c'était pas si clair que ça. Puis M. Legault a rappelé lui que il faut le faire en disant que Ottawa doit fermer les routes. Je rappelle que le PQ propose de le faire sans attendre le fédéral. Je pense pas qu'ils ont le droit de faire ça. Et je comprends qu'ils vont dire ouais, mais on peut gérer les routes. Mais il y a beaucoup de politique autour de ça. Et c'est vrai qu'il y a une facture qui est élevée. Facture en éducation, en aide sociale. Le fédéral est supposé payer, mais on sait aussi que le fédéral, c'est très long avant d'honorer ses factures. Mais on ne peut pas non plus, il y a une capacité quand même à accueillir des gens par le chemin Roxham, puis des gens donc qui demandent le statut de réfugiés. Beaucoup vont essayer de s'intégrer rapidement, mais le temps que le dossier soit regardé, puis je le disais, là, c'est vrai pour l'aide sociale, puis c'est vrai pour la scolarisation, puis les cours de français. Puis est-ce qu'on va avoir finalement une entente avec les Américains? Ça reste à voir. Je fais une parenthèse. Je lisais ce matin sur Radio-Canada l'histoire terrible d'un viol de 17 femmes, dont une mineure, dans une prison en Haïti. On sait que le pays est traversé par des cas de violence extrêmes. Et ce qu'on apprend, c'est que l'agression s'est produite dans la nuit du 26 au 27 janvier. Il y a eu mutinerie dans une prison. 14 prisonniers ont été tués, 11 autres se sont évadés. Ce sont les chiffres officiels du gouvernement. Des organismes de défense des droits de la personne parlent plutôt d'une vingtaine de morts. Et que donc 17 femmes qui étaient détenues et une mineure ont été violées par une cinquantaine de détenus. C'est épouvantable. Avocats sans frontières parlent de conditions inhumaines de détention, notamment à la prison des Gonaïves, et qu'on n'est même pas dans le respect des standards nationaux et internationaux. Puis j'ai déjà jasé avec des policiers qui sont allés en Haïti, et il n'y a rien dans les standards en Haïti, là. Puis on sait qu'on a eu des programmes pour essayer de développer de l'expertise puis donner de la formation. Mais on va essayer d'en savoir un peu plus long là, sur ce qui s'est passé dans cette prison. D'autre part, avec Jean-François Lépine, on va entre autres parler ce matin de cette entente avec entre les États-Unis et les Philippines pour l'utilisation de bases. Tout ça arrive dans un climat de tension. Chine, Taïwan, les Américains qui veulent être prêts. Et puis, après le gouvernement américain, on apprend que le Canada a découvert la présence d'un second ballon espion survolant l'Amérique du Nord. Hier, les Américains ont dit suivre les déplacements d'un ballon espion chinois qui vole à très haute altitude et qui serait en train de prendre des images de sites militaires extrêmement sensibles. Et que ces mouvements sont évidemment suivis à la trace par NORAD, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. Alors, observation aux États-Unis, notamment, je pense que c'est au Montana, puis les Canadiens qui prétendent aussi la même chose. Et ça arrive alors que le ministre François-Philippe Champagne reproche aux universités canadiennes de faire preuve de laxisme dans leur relation avec les Chinois, notamment pour ce qui est de la collaboration dans la recherche avec beaucoup d'experts chinois du côté militaire. Donc, viennent au Canada pour obtenir les fruits de travaux de recherche, avoir de l'information et évidemment, vous comprendrez, l'utiliser en Chine. Et M. Champagne considère que ça n'a pas de bon sens, que ces ententes de coopération ne sont pas assez rigoureuses dans le contexte actuel. Coup d'œil rapide sur l'économie. La presse nous dit ce matin que le panier bleu, on surveille ça là, ça vend un peu, mais pas tant. C'est pas le gros succès qu'on croyait. Alors, même si il est transactionnel depuis 4 mois, on est loin du succès. Puis il y a peut-être des gens qui utilisent le panier bleu qui peuvent nous écrire un petit mot et témoigner là-dessus. Et vous dire également qu'on a appris que Nestlé avait décidé de mettre un terme à la distribution de certains produits pizza, ligne cuisine. Et je voyais ça hier, et un peu des révolutions qui se passent actuellement, notamment dans le monde surgelé, parce qu'il y aurait une augmentation de la consommation. Il n'y a pas de perte d'emploi ici, c'est fait ailleurs, là. Mais tous ces mets préparés, je comprends que ça dépanne, on s'entend que c'est pas nécessairement très bon, là. Mais donc, ce sont 4 marques bien connues qui disparaissent. Est-ce qu'elles seront remplacées? Sylvain Charlebois de l'Université Dalhousie pense que ça va prendre un petit bout de temps.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Bon, ben il y a pas mal de nouvelles qui gravitent autour de la santé publique. On a appris hier soir que Medicago cessait ses activités. Donc, le vaccin québécois ne sera pas commercialisé. On y reviendra. Des données aussi sur la surmortalité au Québec. Et puis, les nouvelles suggestions, recommandations de la santé publique concernant la vaccination des Québécois. J'en parle avec Dr. Luc Boileau, qui est le directeur national de la santé publique. Dr. Boileau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Première question, est-ce qu'on est capable de savoir environ là, le pourcentage de Québécois qui ont eu la COVID?
Ben, on a différentes approches pour faire ça. Celles qui ont fait généralement, c'est avec les tests là, sanguins avec Emma Québec ou encore les gens qui se présentent dans les urgences pour différentes raisons. On fait des tests de ce côté-là, mais on fait aussi des sondages qui sont assez précis parce que les gens ont eu accès à des tests rapides ou des tests TAN, là, c'est-à-dire les tests qu'on fait sur PCR. Et avec ça, on a une très bonne idée. Ce que ça nous montre, c'est qu'il y a au minimum 75% des gens, mettons jusqu'à 60 ans, qui l'ont fait. Et au-dessus de 60 ans, c'est au minimum la moitié. Quand je dis au minimum, c'est parce que il y a peut-être eu des cas asymptomatiques, les gens s'en sont pas rendus compte. Fait que c'est pour ça qu'on vous dit ça comme ça. Mais grosso modo, là, c'est vraiment la grande majorité des Québécois. Mais en haut de 60 ans, c'est pas la totalité. C'est 50%, peut-être un petit peu plus. Alors ça laisse des gens qui l'ont jamais fait et qui restent à risque de le faire et d'être malade, bien sûr.
OK. Donc, ça veut dire que des gens qui n'ont pas eu la COVID, les gens qui n'ont pas été vaccinés adéquatement, ça nous laisse un pourcentage de combien puis de gens vulnérables?
Ben, ça nous laisse à peu près 1 500 000 personnes que nous recommanderions d'aller chercher une dose après 6 mois de leur dernière. Ça, ce sont les gens qui, comme vous le dites, n'ont jamais eu la COVID, mais qui sont dans nos groupes à risque. Alors, c'est pas tous les Québécois là, qui sont dans les groupes à risque, ce sont les gens plus âgés de 60 ans, les gens qui ont des maladies chroniques, les travailleurs de la santé, bien sûr, les femmes enceintes, puis ceux qui vivent en région très éloignée, mais ne pas oublier les gens qui sont immunodéprimés. Ça, ils se connaissent, là, ce sont des gens qui prennent des médicaments assez compliqués puis qui donnent des effets ou des cancéreux, tout ça. Ces gens-là, là, même s'ils ont eu la COVID, leur immunité peut être fragilisée, alors on recommande après 6 mois une nouvelle dose. Ça, c'est pour les recommandations qu'on fait, là, c'est vraiment pour l'hiver actuel puis le printemps 2023 et on verra pour l'automne. Donc, ça laisse beaucoup moins de monde. On refuse personne, mais voici nos recommandations. Alors, la nouveauté là-dedans, M. Arcan, c'est que si les gens ont fait une COVID et qu'ils ont eu une vaccination minimalement de base, là, 2 doses, et puis plusieurs en ont eu plus que ça, on n'a pas besoin de retourner se faire vacciner durant l'hiver ou durant le printemps. Notre protection va durer, puis elle est très bonne. On appelle ça l'immunité hybride, c'est-à-dire le fait d'avoir eu la vaccination et l'infection.
Okay.
C'est très, très bon. Ça dure dans le temps.
Je me souviens qu'à un moment, il y avait une hypothèse selon laquelle le vaccin pour la COVID serait un peu comme le vaccin concernant l'influenza, c'est-à-dire saisonnier. Là, je comprends que la recommandation, vous dites, c'est pour l'hiver, le printemps. Mais est-ce qu'on pourrait se retrouver à l'automne avec une campagne plus importante nationale de vaccination contre la COVID?
C'est possible, M. Arcan. Votre question est très bonne. Puis plusieurs déjà juridictions s'enlignent progressivement comme ça. Mais nous, on préfère regarder nos données québécoises et internationales aussi sur l'efficacité vaccinale puis le temps qu'elle dure. Mais il est certain que cet automne, on aura, c'est-à-dire pour l'automne, on aura de nouvelles recommandations de notre comité d'immunisation du Québec. Puis ça pourrait aller dans ce sens-là. Mais il est trop tôt en ce moment pour le confirmer.
OK. Je voudrais parler des autres maladies respiratoires qu'on a connues là, avec une certaine intensité. Je pense évidemment à l'influenza. Je pense également à ce virus respiratoire là, qui a touché beaucoup d'enfants, des salles d'urgence à Sainte-Justine puis à Children encombrées. C'est quoi le portrait? Est-ce que la vague est passée?
C'est quoi le portrait de... Excusez-moi.
Ben, de tous ces virus respiratoires qu'on a eu, influenza puis virus chez les enfants.
Oui. Oui, excusez, c'est parce qu'il y a eu un accrochage sur la ligne. Somme toute, le paysage est très, très, très bon. En fait, il est étonnamment bon d'ailleurs. Donc, pour le virus respiratoire syncytial, ça a baissé beaucoup. On le voyait déjà en décembre qui commençait à baisser. Là, ça reste très bas. Et c'est pour ça d'ailleurs que nos urgences pédiatriques, comme vous le soulignez, étaient débordées, mais ne le sont plus là, pour ces raisons-là. Le virus de l'influenza, lui, avait monté beaucoup, et il a baissé. Il est maintenant très, très faible, donc en bas de 1,5% là, dans nos systèmes de je dirais, de surveillance, là, je rentrerai pas là-dedans, mais ça veut dire que la contagion est très faible dans la communauté. Donc, on a un paysage très positif. En fait, il faut reculer presque 10-13 ans en arrière pour voir un mois de janvier aussi beau que ça. Alors, les gens ont probablement adopté des comportements très approprié pendant la période des fêtes, mais en plus, le virus a fait son temps. Alors, on est vraiment dans un paysage très positif. Puis pour la COVID, c'est la même chose. Ça a baissé beaucoup, beaucoup. C'est tant mieux. Mais là, on commence à voir des signes, M. Arcand, d'une remontée chez les plus jeunes, chez les jeunes adultes. Ça coïncide avec la progression du variant là, XBB 1.5, là, que certains appellent le Kraken, qui, lui, s'installe là, dans une progression assez rapide au Québec, qui va nous donner une plus grande contagion, qui va amener des réinfections. Et puis, c'est pour ça que ceux qui sont à risque et qui n'ont jamais fait l'infection, on les invite, quand ça fera 6 mois qu'ils ont eu leur dernière dose, à en profiter.
OK. Je vois ce matin dans la presse des chiffres, en fait, qui nous montrent qu'il y a eu surmortalité, que c'est à la hausse, qu'autrement dit, c'est plus fort en 2022 qu'en 2020, qui était pourtant la première année de la pandémie. Comment on explique cette surmortalité, ce nombre plus élevé de décès?
On l'explique assez facilement, malheureusement, par le fait que l'Omicron et les autres variants se sont étendus à tellement de milliers, de millions de personnes que ça a été chercher ceux qui étaient malheureusement les plus à risque. Donc, c'est surtout une surmortalité chez les personnes très âgées. Et ça fait en sorte qu'on a observé ces décès plus grands que la normale là, durant la période 2022. Mais c'est vraiment parce que c'est pas parce que le virus était plus virulent, hein. C'est parce qu'on a eu tellement de cas. Là. Souvenez-vous, l'année passée, à pareille date, là, on était dans des taux d'hospitalisation qui sont énormément supérieurs à ce qu'on a en ce moment. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de cas. Il n'en demeure pas moins que le Québec, globalement, pour la pandémie, a performé mieux qu'à peu près partout. Là. Ici, sur la scène canadienne, on est parmi les meilleurs. On est en deçà de l'Ontario, en deçà de la moyenne canadienne, en deçà de beaucoup de la moyenne américaine, puis on se compare aux meilleurs pays du monde. Donc, c'est le paysage, globalement, reste positif, mais la dernière année a été difficile, et M. Arcand encore plus durant l'automne. Alors, on a eu une surmortalité qui était due, entre autres, à tous ces virus qui nous ont infectés plus vite que nous l'aurions souhaité et qui sont venus chercher des gens plus fragiles, mais le paysage s'améliore beaucoup. Puis si on regarde la mortalité plus récente des dernières semaines, c'est nettement à la baisse.
Beaucoup d'auditeurs m'envoient des courriels en disant on est convaincu qu'on a la COVID longue, on a des symptômes. Qu'est-ce qu'on sait de l'ampleur de ce phénomène de la COVID longue, puis comment c'est traité?
Bon, c'est un sujet d'importance. On a pas beaucoup de maladies infectieuses comme ça respiratoires qui peuvent allonger une maladie comme la COVID longue, comme le fait la COVID plutôt. Alors on a probablement autour de, les études vont varier, là, mais mettez autour de 9-12% de cas qui peuvent se prolonger plus de 3 mois comme symptômes lourds. Il y en a, M. Arcand, ça fait déjà presque 3 ans là, qu'ils ont des symptômes très lourds. C'est pas la majorité, mais il y en a. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur une base internationale là-dessus. Ici au Québec, on a aussi des pôles d'excellence de ce côté-là. Il faut juste penser à l'Institut de cardiologie, mais l'Institut de recherche clinique de Montréal qui fait des travaux importants avec d'autres centres. On a des cliniques qui sont bien installées de ce côté-là. Il y a toutes sortes d'approches thérapeutiques. Il n'y a pas une recette miracle, il n'y en a pas. Il y a même des vaccins qu'on redonne aux vaccins pour améliorer le sort de ces personnes. Donc, il y a des études en cours, mais somme toute, c'est de prendre tous les moyens qu'on peut pour pallier à ces effets qui sont des fois lourds et qui, comme vous le dites, là, inquiètent beaucoup de personnes.
Bref, il n'y a pas grand-chose à faire.
Il y a des choses qu'on progresse, il y a des connaissances qui progressent de ce côté-là, il y a des façons de s'identifier ceux qui sont plus à risque. Bien sûr, si vous voulez éviter ça, c'est d'être vacciné avant de faire le COVID. C'est pas sûr à 100% que ça va nous les éviter. Là, on essaie dans du 33%, 35% de bénéfices nets là, pour empêcher ça. Mais une fois qu'on l'a, c'est quelque chose de difficile. Mais comme clinicien, là, les gens qui voient les patients directement, ça dépend des symptômes qu'ils ont. Alors, il faut ajuster toutes sortes de médications, mais remède miracle en ce moment, pas encore.
OK. Là, j'arrive du champ gauche, je vous le dis tout de suite. Là, la santé publique, ce ne sont pas, en fait, que les maladies infectieuses. Là. Je regarde ce matin l'augmentation du nombre d'enfants sur la liste d'attente de la DPJ, des enfants qui attendent d'être évalués, des enfants qui attendent un plan de match. Je comprends que les cas plus graves sont traités plus vite, mais à quel moment ça devient un problème de santé publique, vous pensez?
Ben, je pense que c'est un problème de santé ou de services sociaux là, pour la population et pour, surtout pour les plus vulnérables, vous le dites bien. C'est pris en compte sous différents angles. C'est pris en compte aussi par la santé publique pour prendre toutes les mesures préventives pour éviter que des situations comme ça se génèrent là, au fil du temps. Donc, on travaille avec nos collègues du ministère de la Santé, le responsable, notamment Mme Catherine Lemay, qui est la directrice nationale de la protection de la jeunesse, pour que dans l'axe de service, à partir de la naissance et même avant, on puisse éviter que ces situations-là arrivent. Une fois qu'elles arrivent, c'est pas les équipes de santé publique qui s'en occupent. Là, il y a des fois des croisements, mais ce sont les services qui sont dédiés de ce côté qui s'en occupent. Mais pour votre question, vous mettez le doigt dessus, c'est pas un problème qui a une frontière en disant non, ça nous appartient pas. C'est un continuum de services à offrir pour prévenir, pour faire une promotion de santé, mais aussi des gestes préventifs auprès des personnes qui sont des fois plus à risque et d'éviter qu'on achemine des enfants dans des situations comme ça.
Parce que, on va en reparler tantôt, mais on a l'impression qu'il y a de plus en plus de cas d'enfants qui font l'objet d'une évaluation sur le tard. On n'a pas les ressources. On a vu des jugements rendus où on ordonnait que l'enfant ait, par exemple, la présence et l'aide d'un psy. Ça arrive pas dans les faits tout le temps. Il y a des enfants maganés qu'on n'arrive pas à soigner.
Oui. Ben, c'est sûr que c'est pas une situation qui est à laisser comme ça. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il y a beaucoup d'énergie qui sont mises là-dessus. La COVID nous aura fait bifurquer beaucoup de nos énergies pour s'occuper de cette situation qui méritait là, toute l'attention nécessaire. Il y a eu toutes sortes de conséquences à cela au niveau des enfants, la scolarité, vous l'entendez. Alors ici, on est aussi dans un effet qui peut être lié à cette prolongation de toutes sortes d'effets familiaux là, autour de la COVID. Donc, soyons vigilants là-dessus, mais les ressources sont mobilisées. Vous savez à quel point ou vous ne le savez pas à quel point, mais je pense que les gens affichent tous les efforts qu'il faut et la bonne volonté, mais ça continue à exiger des soins plus attentifs encore.
Merci, Dr. Boileau. Bonne journée.
Monsieur Arcan, merci beaucoup.
Dr. Luc Boileau, qui est le directeur national de la santé publique.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Liste d'attente à la DPJ. Les chiffres sont troublants, mais on le sait tous, ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont des enfants qui attendent pour être évalués. C'est Katia Gagnon dans la presse qui nous apprend ça ce matin. Bonjour, Katia.
Bonjour, Paul.
Bon, alors, c'est une liste qui déborde, là. On comprend que les cas très, très, très urgents sont vus rapidement, mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en attente d'abord d'être évalués puis d'avoir un suivi adéquat.
Oui, effectivement. Donc, faut préciser là, les codes 1 et 2, on dit sur le terrain que c'est toujours traité. Là. Alors, les cas jugés urgents, c'est traité en dedans de 24 heures. Ce sont les codes 3, donc les situations jugées moins urgentes qui se retrouvent sur cette liste d'attente et qui attendent pendant plusieurs semaines. Puis là, on parle pas d'enfants qui, tu sais, qui subissent, là, qui ont peut-être été victimes de maltraitance, qui ont été, mettons, exposés à de la pornographie, qui ont des comportements sexuels troublants à l'école. C'est pour ça qu'ils ont été signalés. Le signalement a été retenu. Et là, faut juger, puis c'est là, c'est à cette étape-là que ça bouchonne, faut juger si leur santé et leur sécurité est compromise. C'est ce que la DPJ doit déterminer. Et ces 5000 enfants-là, à l'échelle du Québec, ils attendent donc depuis plusieurs semaines. Puis pour te donner une idée, Paul, de l'évolution de cette liste-là, donc, j'ai refouillé dans mes vieux papiers. Ça fait un petit moment que je suis ça. Donc, il y a 4 ans, presque exactement en 2019, j'écrivais un papier pour dire la liste d'attente atteint un record à 3000 noms. OK? Mm-hmm. 2 ans, à peu près, quand le rapport Laurent a été publié, on était à 3500 noms. Et là, maintenant, tout de suite après les fêtes, on était à 5100 noms. Et là, ça a baissé un peu à 4700. Mais on est quand même à des niveaux très inquiétants, selon plusieurs personnes que j'ai interviewées.
Bon, je veux qu'on élargisse aussi un peu la discussion quand on parle de ces ressources. On comprend tous là que le personnel est manquant, le personnel est épuisé. Mais c'est parce que ce qui est, je dirais, extrêmement préoccupant, là, c'est un minimum, là, c'est que, un, ça prend du temps pour les évaluer. Deux, une fois qu'on les a évalués, est-ce qu'on est capable de leur donner les ressources dont ils ont besoin? Puis quand ça arrive, ils sont rendus à quel âge?
Alors, ça, c'est une bonne question, Paul, parce que avant, il n'y avait pas de liste d'attente à l'application des mesures, là, qui est comme l'étape suivante, si tu veux. Une fois que ces enfants-là sont évalués, qu'on a déterminé que leur santé et sécurité est compromise, qu'ils sont, mettons, placés en famille d'accueil, bien là, il faut leur donner des services. Ça s'appelle l'application des mesures à la DPJ. Donc là aussi, il y a une liste d'attente. Avant, il n'y en avait presque pas, et là, il y en a une. Et tout ça est effectivement une conséquence de la pénurie de personnel qui, à certains endroits, là, je veux dire, je ne sais pas comment ils font pour fonctionner. Dans certaines équipes en Montérégie, là, des sous-régions, on est à 5 intervenants sur une possibilité de 19. Ça veut dire que les 3/4 des intervenants qui ne sont pas là, les postes s'ouvrent, les postes sont ouverts, ils veulent recruter des gens, mais ils ne sont pas capables.
Écoute, t'as assez d'expérience dans ce domaine-là. Là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Recruter des gens avec peut-être un peu moins de formation? Comment ils vont garder leur monde puis comment ils vont en attirer?
Hey, mon Dieu, c'est donc la question à 1 million $, ça, parce que je pense qu'ils essayent toutes sortes de choses. Là, tu vois, à l'évaluation, ce qu'ils essayent, c'est de séparer les deux fonctions, parce qu'il y a évaluation-orientation. Donc, l'évaluation doit être faite en vertu de la loi par une personne qui est membre de l'Ordre des travailleurs sociaux. Donc, il y a le label travailleur social, il a passé l'examen de l'Ordre, il est membre. Donc, ça, c'est régi là, par le Code des professions. Donc, ils peuvent pas faire ça par n'importe qui à la DPJ là, qui a pas le titre de travailleur social. Alors là, il y a toutes sortes de méthodes par lesquelles on essaie de un petit peu de contourner ça là, pour juguler cette liste d'attente-là. C'est pas évident parce que, je veux dire, l'évaluation, c'est une fonction qui est très difficile. C'est une décision extrêmement importante. Il faut déterminer, dans certains cas, est-ce qu'on sort cet enfant-là de la famille biologique? C'est une décision qui est très grave. Donc, il faut avoir les compétences, la formation pour prendre cette décision-là. Mais en même temps, là, il manque de monde de façon cruelle, je dirais, là, dans certains endroits. Donc, quelle est la solution? Et j'aimerais donc pas ça être de cette organisation-là.
Là, je vais poser une question, puis je veux pas prêter de mauvaises intentions à personne, là, puis je suis pas dans les complots, là, mais quand on a une liste comme ça qui déborde, est-ce qu'il n'y a pas une tentation à la réduire de façon artificielle, c'est-à-dire à inscrire peut-être moins de cas ou à régler supposément des cas plus vite? Tu comprends ce que je veux dire, là? Pour pas que ça paraisse mal.
Alors, je comprends, puis effectivement, la crainte de cette séparation des deux fonctions-là, là, la crainte que les intervenants émettent sur le terrain, des gens qui m'ont contacté là, pour me faire part de leur désarroi là, par rapport à ça, c'est de dire, ben c'est ça qu'on va faire. On va nous assigner rapidement les cas à l'évaluation. Donc, ces enfants-là vont disparaître de la liste d'attente, mais ils ne seront pas plus vus vite là, parce que l'intervenant, il est déjà surchargé, fait qu'il ne pourra pas les voir plus rapidement. Bon, je dois dire que le directeur de la protection de la jeunesse à qui j'ai parlé m'assure que tel n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que les enfants soient évalués plus rapidement, qu'on vienne vraiment à bout de cette liste d'attente-là. Donc, tu sais, mais effectivement, ces craintes-là sont exprimées.
Merci beaucoup, Katia. Bonne journée.
Merci à toi.
Au revoir. Katia Gagnon, qui est chef de la division des enquêtes à La Presse. Alors, une liste qui est très longue.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
On va parler de conduite automobile et aussi de véhicules électriques. Il y a beaucoup de Québécois pour qui c'est le premier hiver, puis disons la première période de temps extrêmement froid avec leur voiture électrique. Benoît Charrette est là, le rédacteur en chef de l'annuel de l'automobile. Bonjour Benoît.
Salut Paul.
Bon, peut-être juste avant de parler d'auto électrique, là, les conseils, je dirais, de conduite de base là, quand il fait froid comme ça.
Écoutez, prévoyez au moins un petit peu de temps pour laisser le moteur tourner une minute et demie, question de réchauffer les huiles, parce que les huiles deviennent beaucoup plus épaisses par temps froid, et partir d'un coup sec, là, c'est pas très bon pour le moteur, donc je recommande rarement de laisser le moteur tourner, mais quand il ferait très froid, c'est pas mauvais de le faire, là, pas une demi-heure, là, une minute et demie, juste le temps de laisser tout ça se réchauffer. Puis après ça, on peut partir. Évidemment, prévoyez par temps froid d'amener peut-être quelque chose si vous restez en panne, si votre voiture est pas neuve-neuve. Prévoir une couverte, assurer que votre cellulaire est bien chargé si vous avez un appel à faire. Là, c'est de la prévention de base. Là.
OK. Dis-moi, les chauffe-moteurs, est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce que
oui,
ça...
ben ça existe toujours. Tu sais, bon, Paul, on est de la génération où on se faisait à peu près tout installer un chauffe-moteur.
Ben oui.
Bon, en fait, c'est pour chauffer les huiles. Ça n'a jamais chauffé le moteur, mais ça tient les liquides plus chauds dans le véhicule, ce qui fait qu'on a des démarrages plus faciles le matin. Mais ça existe toujours pour les moteurs à essence. Et par temps froid, c'est toujours un avantage parce que la voiture va partir plus facilement. Évidemment, faites vérifier, moi je suis toujours au début de l'hiver ou avant le début de l'hiver, faites vérifier votre batterie, parce que évidemment, des temps comme aujourd'hui, le CA va en avoir plein ses bras, c'est clair. Ceux qui ont des batteries qui étaient un peu faibles ce matin, là, en moins 22, 24, 25, là, ça risque de tousser un peu au départ.
OK. Bon, parlons des véhicules électriques. T'en as conduit, des véhicules oui. hybrides également. Ça se comporte comment quand il fait froid comme ça?
Bon, il faut calculer l'hiver qu'on va avoir une perte d'autonomie qui va varier entre 30 et 40 là, par rapport aux chiffres que le constructeur va donner quand il fait beau. Là. Parce que les chiffres qu'on donne d'autonomie, c'est toujours dans des conditions idéales. Nous, on a fait, en fait, pratiquement il y a un an, un grand test pour l'annuel de l'automobile et on a remarqué que c'est à peu près la perte moyenne des véhicules. On avait une journée de moins 15 quand on a fait notre test. Ce que j'ai aussi remarqué, parce que je roule un hybride branchable cette semaine, et on a eu une journée de moins 15 avant hier, quand je suis parti le matin, j'avais un petit afficheur dans mon afficheur du Mitsubishi Outlander, c'était marqué « Mode EV non disponible, batterie trop froide ». Alors, j'ai marché au moteur uniquement, puis bon, je me suis dit, à moins 15, tu sais, moins 15, c'est pas rare l'hiver, non. Là, c'est des journées qu'on a quand même assez souvent, et ça s'est un petit peu réchauffé dans la journée, puis autour de moins 9, moins 10, le mode électrique est reparti, mais le 60 km ou 62 km qu'annonce Mitsubishi, ben j'en ai fait 38 cette semaine. Donc, l'hiver, si les gens ont un véhicule électrique, il faut prévoir dans les déplacements que on va réduire de manière assez substantielle l'autonomie qu'on peut faire. Donc, prévoyez-le dans vos déplacements.
OK, puis quand on branche le véhicule, t'as pas le goût de te retrouver avec une batterie froide, là, je veux dire...
Bon, il y a des chauffe-batteries. Il y a plusieurs constructeurs. Là, il faut consulter là, puis s'informer auprès des détaillants quand on le magasine. Il y a des chauffe-batteries qui vont permettre justement de mieux recharger la batterie si on doit arrêter soit en chemin ou qu'on recharge chez soi. Et c'est sûr que parfois, comme aujourd'hui, la recharge est difficile. Là. Il y a même eu des compagnies comme Toyota qui ont émis des avis que à moins 20 et moins, les moteurs électriques, les batteries ne rechargeront pas. Alors là, ça, c'est embêtant parce que si c'est ton seul véhicule, t'es pris comme un petit peu chez vous aujourd'hui.
T'es dans le trouble. Merci, Benoît. C'est bon à savoir.
Ça fait plaisir, Paul. Salut.
Au revoir. Benoît Charrette, qui a aussi un balado, ça tient la route. Mais il faut juste s'ajuster. Puis il y a du moins 28, puis tout ça, là, puis des voitures qui sont à l'extérieur. Vous allez peut-être avoir une surprise.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Avec grand plaisir qu'on va parler avec David Latulippe, qui est chanteur. Évidemment, le point fort de sa carrière, c'est d'interpréter de temps en temps nos parodies.
Oui.
Mais plus sérieusement, c'est l'interprète de Zéro Janvier dans la nouvelle mouture de Starmania.
J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon...
Et la comédie musicale en France fonctionne. Tempête, ça s'arrête pas, les billets vendus. On parle de 300 000 spectateurs en 3 mois. Il fait partie de cette mouture. David Latulippe, allô?
Allô. Hey, ça me donne encore des frissons d'entendre ça. C'est assez fou.
De retour au Québec pour une petite semaine avant de repartir en tournée. On veut savoir comment tu t'es retrouvé dans cette distribution de cette nouvelle relecture de Starmania.
Hey, ça a été hyper vite, mais en même temps, avec la COVID, hein, il y a eu beaucoup d'attentes. Parce que j'ai auditionné en janvier 2020. Pour Ziggy, en fait, c'est même pas le rôle, c'est même pas pour le rôle que je voulais. Après ça, il m'a demandé une deuxième chanson. J'avais pas d'autres chansons de ce personnage-là, donc j'ai dit, je connais le blues businessman. Et j'ai chanté ça, puis vraiment, là, il y a eu un gros déclic. J'ai eu une autre journée d'audition le lendemain, puis c'était fait. Vraiment, ça s'est fait en 2 jours, hyper rapidement. Il y avait des auditions à Montréal, Luc Plamondon était là et tout ça. Puis voilà, ça s'est fait en quelques jours. Après ça, 2 ans d'attente, COVID et tout ça, on y croyait plus. Mais là, après 300 000 billets vendus, on y croit. Puis on est très, très émus de notre spectacle.
Si tu pouvais nous décrire la sensation d'être, en France, 5 000 personnes sur scène puis interpréter des chansons mythiques comme ça, c'est quoi?
Je te dirais qu'au début, c'était on est bien émotif, là, mais c'était vraiment émouvant. On pleurait beaucoup pendant le show. Fallait se gérer parce qu'on avait d'autres tunes à faire. Mais en arrivant pour le Blues Businessman, être toute seule sur scène avec il y a des gros jeux de lumière, en tout cas dans mon numéro, c'est vraiment je me dis à chaque jour comment je suis chanceux d'être lui qui est là, qui fait ça, parce que ça fait 10 ans que je chante, ça fait 10 ans que je fais ça. Pour me rendre à faire ça. Fait que vraiment, je suis chanceux. Puis après 100 shows, là, je suis encore ben ému d'avoir la chance d'incarner ce personnage-là chaque soir.
Et on sait qu'il y a eu plusieurs versions de Starmania. Celle de 2022-2023, ça ressemble à quoi? Parce qu'on dit que c'est vraiment futuriste. Nous, on n'a plus l'occasion de la voir encore. Ça va être probablement cet automne. Mais c'est quoi les grosses différences qu'on peut voir?
Ben moi, ce que j'ai aimé sur la direction de 2022, c'est qu'il voulait... Oui, Starmania, c'est dans le futur, mais on peut pas nommer vraiment de date. On peut pas mettre un temps à ça. C'est dans le futur. On sait pas trop c'est quand. Puis ce que j'aime, c'est qu'on est allé vraiment dans le moderne. Que dans, je crois, si on le refait dans 20 ans, ça va être encore dans le style moderne. Mais ce qu'on peut voir live, c'est vraiment le jeu de lumière. Il y a vraiment des nouvelles technologies qui ont été créées seulement pour ce spectacle-là. T'as des lumières qui sortent du stage, de la terre. En tout cas, c'est vraiment... Ça crée tellement de lumière et d'options que on dirait voir des hologrammes, en fait. Fait que ça, je pense que mise en scène, lumière et tout ça, c'est vraiment un plus. Puis une nouvelle technologie là, qu'on n'a jamais vue.
Et le public a vraiment accroché. L'approche des Français, ça ressemble à quoi? Parce que tu as fait la voix au Québec, un chanteur connu. Comment eux, ils gèrent ça avec justement les artistes?
Ben en fait, oui, j'ai fait la voix, mais je pense qu'ils sont allés chercher un cast pas nécessairement connu. Puis c'était un choix qu'ils voulaient. Ils voulaient pas aller chercher des têtes d'affiche et vendre les billets avec les noms. Ils voulaient vraiment avoir des artistes qui aimaient puis qui castaient vraiment avec le rôle et jouaient avec ça. Donc non, je crois que pour le cast, c'est réussi pour tout le monde. Je pense au lieu d'aller chercher, comme je dis, des têtes d'affiche, ils ont vraiment été chercher les voix qu'ils voulaient vraiment pour le rôle. Fait que ça a été plus comme ça la recherche de chanteurs.
Et là, tu pars en tournée en fait pour tout le reste de l'hiver. Et là, on parle de dates pour l'automne. Est-ce que tu as déjà des dates que tu peux annoncer? On nous avait dit peut-être la salle Wilfrid Pelletier pour le Québec.
Le Québec, écoute, je peux pas encore en parler parce que c'est pas fait. Même moi, en ce moment, là, je suis un peu stressé. Ben, je me dis, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? on n'a pas le choix. On n'a pas le choix vraiment de venir au Québec. C'est encore en attente. Pour l'instant, on fait la tournée France, Belgique, Suisse jusqu'à juin. Là, je repars lundi prochain. Puis on revient à Paris pour 3 mois, novembre, décembre, janvier prochain. Pour l'instant, c'est juste ça qu'on a. Puis le Québec, on est supposé d'avoir des réponses bientôt parce que ça s'en vient si ça marche. Fait qu'il va falloir qu'on soit au courant. Oui. Mais non, pour l'instant, le Québec, je pourrais pas en parler.
Okay. On va le souhaiter.
Ouais, on se le souhaite en tout cas.
Merci de faire nos parodies une fois de temps en temps.
Hey, mais écoute, ça c'est tellement le fun, ça me fait du bien là, de refaire ça cette semaine.
C'est un petit sideline comme ça.
Merci beaucoup d'avoir été là ce matin.
Merci.
Salut.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.